Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien. La valeur du travail, Jean-Marie Frey.
Alors, un travailleur agit, un travailleur est actif, toujours. Il n'y a pas de travail qui ne soit d'une manière ou d'une autre une activité. Mais toute activité est-elle un travail ? Travailler, c'est toujours modifier quelque chose. Si je travaille, je transforme toujours quelque chose. Mais est-ce que ça suffit à dire ce qu'est un travail ? Rien n'est moins sûr, puisque si je considère un phénomène naturel comme celui de la communication de la chaleur en provenance du soleil vers la Terre, le soleil produit bien quelque chose, produit de la chaleur, et cette chaleur produit elle-même quelque chose, elle modifie quelque chose à la surface de la Terre. Et pourtant, dira-t-on que le soleil travaille ? On peut peut-être le dire, mais ce serait un abus de langage. Donc, si je veux penser le travail, je ne peux pas me contenter de penser l'idée d'une activité qui modifie. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Alors peut-être que le travail est une activité qui modifie le donné en vue de la satisfaction d'un besoin. Si je dis ça, je dis plus. Parce que le soleil qui produit de la chaleur ne cherche pas à satisfaire un quelconque besoin. Oui, mais à ce moment-là, l'animal, lui, quand il transforme les données, qu'il produit quelque chose, il satisfait un besoin. Peut-être qu'il travaille, on peut le dire. Mais ce travail, s'il s'agit d'un travail, est-il de même nature que le travail humain ? Est-ce qu'il ne se joue pas dans l'activité même du travail quelque chose de très singulier, de très profondément humain ? Alors, je vais vous proposer là quelques éléments de réflexion qui permettent peut-être d'affronter cette question et qui, au passage, permettent de s'interroger sur la valeur du travail. Premier élément de réflexion. Lorsque un travailleur transforme le donné, il ne le transforme pas à partir de rien et sans mettre en œuvre aucun moyen. Lorsque le paysan travaille la terre, par exemple, il met en œuvre des outils. Et ces outils produisent une transformation en vue peut-être de satisfaire un besoin, mais cette transformation par l'intermédiaire de l'outil est une transformation qui n'est pas possible sans une représentation. Il faut que notre travailleur se représente les moyens à mettre en œuvre et la fin qu'il poursuit pour produire l'effet attendu. Autrement dit, le travail ici n'est pas simplement une activité de transformation, c'est une activité de transformation consciente par l'intermédiaire d'outils. Pas de conscience, pas d'outils, pas de travail. Donc le travail, ici, apparaît dans sa réalité singulièrement humaine, très profondément humaine. Ce qui est intéressant, c'est que, du coup, la forme produite, dans la mesure où elle suppose l'intervention de l'outil, qui lui-même révèle la présence au monde d'une conscience, qui vise une fin, qui met en œuvre des moyens. La forme produite devient la révélation d'une conscience. Elle dit quelque chose de la conscience dont elle émane, puisqu'elle provient de cette conscience. De sorte que celui qui travaille, en transformant le donné, produit une forme dans laquelle il peut se reconnaître. D'une certaine manière, il se voit, lui, hors de lui. Et l'autre qui perçoit cette forme ne perçoit pas simplement une forme appartenant à la nature, mais il perçoit une forme qui provient d'une autre conscience. Donc le travail produit des formes dans lesquelles je suis susceptible de me reconnaître et d'être reconnu. Bien. Alors quand on a dit ça, on est content. On a une définition du travail qui, semble-t-il, éclaire assez bien la nature de l'objet en question. Oui, mais il s'est produit un grand bouleversement. Ce grand bouleversement, c'est l'invention de la machine. Lorsque les machines remplacent l'outil, la machine auto-produit les formes. Une machine, ça n'est rien d'autre qu'un ensemble de mécanismes. Un ensemble de mécanismes capables d'auto-activité. Donc une machine produit des formes mécanisées. Alors évidemment, comme les premières machines qui ont été inventées n'étaient pas capables de tout faire, il a fallu que des êtres humains compensent les manques de la machine. On comprend là l'invention du taylorisme, quoi. Il a bien fallu que quelqu'un fasse ce que la machine ne peut pas encore faire. Et du coup, le travailleur n'est plus que le supplétif d'une machine qui autoproduit des formes et lui-même se soumet à la machine. Son activité est mécanisée. Mais alors la forme produite, lorsqu'elle est produite, elle est autoproduite d'une certaine manière par un monde mécanique, de sorte que cette forme ne manifeste plus une conscience, ne manifeste plus une subjectivité. La valeur du travail s'en trouve très profondément modifiée. En tout cas, il perd de sa signification métaphysique, là. Alors, il garde une signification sociale, parce qu'il faut bien travailler pour vivre. Et puis, dans un monde où le chômage est présent, chacun sait bien que le travail est une exigence sociale. On peut aussi prêter au travail une valeur morale et considérer que l'oisiveté étant la mère de tous les vices, le travail est une vertu, qu'il convient que chacun ait un travail pour trouver sa place dans la société et éviter l'oisiveté. Mais on le voit bien ici, quand on raisonne comme ça, on ne pense plus à la forme produite comme ce par quoi le sujet peut être reconnu. D'ailleurs, le monde où la machine s'est substituée à l'outil est un monde qui produit des formes dans lesquelles on a du mal à se reconnaître. On ne reconnaît plus les formes que par des codes couleurs, des logos, des marques. Parce que dans un supermarché où on se promène dans les rayons et qu'on choisit un produit, on ne cherche pas une forme qui manifeste une subjectivité. On choisit une forme qui renvoie à quelque chose qui pourrait satisfaire un besoin. Et une forme que l'on reconnaît à partir d'un code, simplement. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit que, d'une part, celui qui travaille se trouve lui-même prisonnier d'un mécanisme, puisqu'il vient suppléer au manque de la machine, et le consommateur lui-même, celui qui va détruire le fruit du travail, enfin, l'effet de ce travail, de cette mécanisation plutôt des tâches, le consommateur lui-même est confronté à une espèce de rapport mécanique au réel. Le code couleur, le logo, la marque n'est même pas le signe qui appelle une réponse, mais plutôt le signal qui appelle un comportement adapté à la situation. De sorte que notre consommateur est lui-même prisonnier d'une espèce de mécanisation. Hein ? Avec le machinisme, nous entrons dans l'ère d'une domination de la mécanique. Toute la semaine derrière les machines et les week-ends derrière les caddies. Toute la semaine derrière les machines produisant mécaniquement des formes qui sont déterminées par les mécanismes de la machine et donc finalement de la nature. Et puis de l'autre côté, le consommateur qui lui est amené à consommer, à consumer, c'est-à-dire finalement à détruire à partir d'un rapport lui-même mécanisé au réel. Mais bon, dans le monde que je décris, il reste encore un peu de place pour quelqu'un qui va, en s'inscrivant dans la mécanique, produire des formes. Un peu. Et oui, mais on nous annonce un autre monde maintenant, c'est le monde des robots. Alors avec les robots, les formes seront totalement autoproduites. Donc on imagine là qu'une machine puisse totalement produire la forme sans laisser aucune place à un travailleur qui viendrait compenser les manques de la machine. La forme, dès lors, serait totalement autoproduite. Et du coup, le travail ne vaudrait plus rien. Il n'y aurait plus de place pour le travailleur. Plus du tout. Alors, pourquoi pas ? Et puis, si le travailleur qui vient suppléer au manque de la machine est lui-même mécanisé, le robot libérerait l'homme de tâches très profondément ingrates et de tâches qui ramènent l'homme à la nature. Donc le robot, de ce point de vue-là, serait plutôt libérateur. Enfin, il serait libérateur, il produirait des formes dont la finalité serait d'être consommé, donc d'être consumé. Le robot, c'est la production de formes vouées à la destruction dans le monde de la consommation. Donc, si le monde des robots annonce le monde où il n'y a plus que des consommateurs, le robot, de ce point de vue-là, est-il vraiment libérateur ? S'il s'agit simplement de devenir consommateur de formes produites mécaniquement par une machine, il n'est pas évident que ce monde de la consommation libère véritablement l'homme. À moins qu'il faille considérer qu'il y ait en l'homme une destination qui n'est pas nécessairement celle du travail uniquement. Travailler, je l'ai dit, c'est transformer un dodé, c'est de transformer de manière consciente, par l'intermédiaire d'outils, au sens, disons, traditionnel du terme. La machine met en question ça. Le robot plus encore. Mais si nous regardons ce que nous sommes, effectivement, il y a bien en nous quelque chose qui est comme l'indication d'une destination qui pourrait bien toucher au travail. Si je regarde le corps de l'homme, je m'aperçois qu'il a des mains, et que la main, l'organe que constitue la main, organon en grec signifie outil, est un organe singulier, comme le disait Aristote, c'est l'organe de tous les organes. Kant lui-même, quand il analyse la main, fait remarquer qu'elle pourrait nous donner une indication sur la destination de l'homme. S'il avait été fait pour être heureux, il aurait été équipé biologiquement un peu différemment. Là, sa conformité ou sa forme corporelle indique qu'il est plutôt fait pour transformer le donné, donc pour travailler. Donc pour produire des formes à la sueur de son front. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Peut-être que la destination de l'homme ne se résume pas à l'acte de production. Peut-être même que l'acte de production, plus encore le fait de consommer, ne disent pas véritablement ce qui, en l'homme, est tout à fait singulier. En réalité, l'homme peut entretenir avec le réel un rapport autre, qui n'est pas un rapport de domination, de transformation, qui n'est pas non plus un rapport de domination dans la consommation, parce que consommer, c'est encore dominer, c'est encore... Le consommateur, quand il détruit, il se distingue de l'objet qu'il détruit, il domine en quelque sorte. Il est le maître. Consommer, c'est être le maître de ce que l'on consomme. Détruire, c'est se poser comme n'étant pas ce que l'on détruit. Déjà, on voit le très jeune enfant, on éprouve une certaine jouissance parfois à détruire l'objet qu'il a en main. Enfin, il y a des grandes personnes qui sont de ce point de vue-là encore des enfants et qui détruisent les objets qu'ils ont en main. Dans l'acte de consommer se joue quelque chose qui est comme une espèce de désir de puissance. Et oui, mais tout ça, ce sont des rapports au réel qui sont des rapports, non pas d'ouverture, mais des rapports d'affrontement avec le réel. Un réel qu'on peut transformer, un réel qu'on peut consommer. Nous sommes capables d'entretenir une autre modalité du rapport au réel. Cette autre modalité ne consiste pas à le transformer ou à le consommer. Cet autre rapport au réel consiste à le contempler. Lorsque je contemple, je m'ouvre au réel et je le laisse intact. Contempler, c'est laisser la chose à distance. C'est s'absorber en quelque sorte dans la chose, mais d'une manière telle qu'elle ne soit pas modifiée par la chose. Contempler, c'est s'ouvrir à l'être. Et donc, dans la contemplation, j'entretiens un mode de rapport au réel que je ne trouve pas ni dans la sphère du travail, ni dans la sphère de la consommation. Dans la contemplation, je trouve un mode de rapport au réel qui est un rapport d'ouverture à l'être et à mon être, puisque contempler, c'est s'ouvrir à l'être en tant que je suis capable de le faire. C'est-à-dire en tant que je suis proprement humain. Il y a quelque chose en moi qui est capable de s'ouvrir à un objet qui ne sera pas l'objet de ma transformation et qui ne sera pas l'objet de ma consommation. Évidemment, on pensera ici au rapport que je peux entretenir avec l'œuvre d'art. Lorsque je contemple une œuvre d'art, je la laisse à distance. Je me laisse absorber en elle, d'une manière telle que je la laisse intacte. On se souviendra par exemple que le directeur d'un musée s'appelle un conservateur. Peut-être pas tout à fait par hasard, c'est que le but du jeu, c'est que la chose soit conservée, qu'elle ne soit pas détruite, qu'elle ne fasse pas l'objet d'une consommation. Elle-même est le fruit d'une transformation, mais d'une transformation qui est vouée à la contemplation. Donc le travail de l'artiste ici ouvre un champ de réflexion sur la destination de l'homme. Et la destination de l'homme ici est une destination à teneur, disons, métaphysique. Voilà. S'ouvrir au réel, s'ouvrir à l'être dans la contemplation des œuvres d'art, c'est entretenir un rapport à l'être, un rapport au réel qui est proprement humain. Si Dieu existe, s'il existe un être immatériel, un pur esprit, créateur du monde à partir de rien, cet être-là n'est pas dans un rapport de contemplation, au sens où moi, pour contempler, j'ai besoin d'être là dans le monde par mon corps. Et si je n'étais qu'un corps livré à la nature, qu'une chose sans conscience, je ne serais pas non plus capable de contempler le réel. Donc la contemplation me révèle à moi-même quelque chose qui est proprement humain. Donc que le travail ait une valeur, soit, mais que le travail soit la valeur absolue, évidemment on peut le discuter. Peut-être qu'être pleinement homme, c'est reconnaître la valeur humanisante du travail, c'est vrai. Mais peut-être aussi qu'être pleinement homme, c'est refuser de s'en tenir aux pulsions qui poussent à ne rien faire, par paresse, c'est vrai. Mais peut-être aussi qu'être pleinement homme, c'est également refuser une vie tout entière consacrée à la production. C'est accorder une valeur à un temps consacré à ce qui n'est pas immédiatement utile. Autrement dit, être pleinement homme, peut-être, est-ce que c'est se donner aussi un temps qui est ce temps que les Grecs appelaient « scolé » et qu'il faut traduire en français par le terme « loisir ».
quart d'heure philo sur JetFM par l'association Philosophia, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 18h45, rediffusion les deuxièmes et quatrièmes vendredis.